Alors ça commence directement, comme je vous l'ai laissé entendre tantôt, par la première phrase, lorsque les dieux faisaient l'homme, c'est-à-dire lorsque les dieux jouaient le rôle que joueront plus tard, il n'y a pas d'homme, il n'y a que des dieux. Alors lorsque les dieux faisaient l'homme, ils étaient de corvée et besogniers. Considérable était leur besogne, leur corvée lourde, infinie leur labeur. Car les grands dieux, qu'on appelle les Anunnaku, aux petits dieux, qu'on appelle les Igigu, n'est-ce pas, imposaient une corvée septuple. Autrement dit, il s'agit des dieux. L'idée, c'est un pays dont la religion était polythéiste, il y avait plusieurs dieux, et en même temps anthropomorphiste, c'est-à-dire que les dieux étaient conçus à l'image de l'homme. Alors, comme les hommes comprennent, il y a deux grandes classes parmi les hommes. Il y a les gouvernants et les gouvernés. Ça, c'était déjà transposé, vous voyez que c'est traditionnel. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a d'autres données que nous avons pieusement gardées. Alors, les grands dieux font travailler les petits dieux. Pourquoi ? Parce que les dieux se nourrissent, ils sont comme les hommes, ils ont besoin de manger, de se vêtir, d'avoir des maisons, etc., des temples, mais ils sont les seuls pour se fournir tout ça, c'est normalement à eux de le faire. Alors ils ont décidé que la population, la basse classe, si vous voulez, pendant que les gouvernants, comme il est de tradition, ne font rien, ils gouvernent simplement, les autres travaillent. Alors donc, il n'y a pas encore d'hommes, les dieux sont obligés de travailler, et ils travaillent, mais seuls travaillent les dieux de la basse classe, plus nombreux que les autres naturellement. Alors, ils travaillent, ils organisent la terre sur le modèle anthropomorphique, consiste à plaquer sur les dieux tout ce qu'on connaît des hommes. De même que les hommes travaillent les champs, font des canaux, de même, les dieux, n'est-ce pas, se conduisent comme ça. Et ces dieux d'excaver les cours d'eau, et d'ouvrir les canaux, qui étaient très importants dans ce pays assez sec, où il n'y avait que deux fleuves. On arrosait beaucoup l'arrosage artificiel par les canaux. Alors, et d'ouvrir les canaux qui vivifient la terre. Ainsi creusèrent-ils le cours du Tigre, et après celui de l'Euphrate. Ils font, leur travail consiste à préparer la géographie du pays, comme s'il s'agissait d'un champ fertile. Bon. Quand ils eurent organisé le grand marécage méridional, qui en Mésopotamie, encore maintenant, caractérisait le sud du pays, tout contre la mer Rouge, n'est-ce pas ? Ils firent le décompte de leurs années de besogne, 2500 ans et davantage, qu'ils avaient supporté jour et nuit cette lourde corvée. Ils en ont assez. Ils se mirent alors à déblatérer et récriminer, se complaignant de leur fouissage. Ils ont, si vous voulez, ils ne sont pas très contents, parce que pourquoi eux et pas les autres? Ils sont dieux comme les autres. Il y a une idée, pas tellement soulignée, mais enfin sous-jacente, d'égalité. Ils veulent, n'est-ce pas, être débarrassés de leurs travaux et être traités comme leurs chefs. Alors, ils vont faire la grève. Là aussi, c'est une vieille institution que nous avons pieusement gardée, n'est-ce pas? Ils vont faire la grève, c'est-à-dire qu'ils brûlent leurs outils, leurs bêches, leurs sacs pour transporter la terre, etc. Et ils vont trouver le patron, c'est-à-dire le roi des dieux qui s'appelle Enlil, le preux souverain des dieux. Venez, allons le tirer de chez lui. Il dort, lui, naturellement. Orsa, proclamez donc la guerre, ajoutant la bataille au combat. Ils sont belliqueux, ils veulent triompher comme les grévistes, naturellement. Alors, ils s'en vont donc voir le dieu qui a... C'est un très grand dieu, il s'appelle Enlil. C'est le souverain des dieux du monde, mais si on lit le texte, il n'est pas tellement bien traité. On se moque pas mal de lui. On le présente vert de peur, en larmes, etc. Il n'est pas le plus malin. Ils avaient une expérience. Leur chef, leur roi, n'était pas nécessairement les plus malins. C'est une vieille tradition, celle-là aussi. Alors lui, il ne sait pas trop quoi faire. Les dieux se réunissent en conseil, parce que les dieux tenaient conseil comme les hommes le tiendront en conseil plus tard. Enlil propose d'abord d'exécuter quelqu'un. De la manière facile, on coupe la tête à quelqu'un. Mais quelqu'un dit, mais non, pourquoi après tout, ils sont fatigués, il y a de quoi, il faut savoir pourquoi, de quoi ils se plaignent. Alors on envoie donc aux grévistes, on envoie une ambassade, si on peut dire, qui revient en disant, ils ne veulent plus travailler comme ça, ils ne veulent plus être traités différemment des grands dieux. À ce moment-là, alors, comme la grève dure, il y a une grande panique, si vous voulez, qui se crée dans la société divine. Ils se rendent compte qu'ils vont crever de faim, puisque personne ne travaillera plus. Alors, à ce moment-là, intervient le dieu le plus malin, le plus intelligent, le plus malin, celui qui résout tous les problèmes, le super ingénieur, si vous voulez. Alors, c'est lui qui propose au dieu de créer un être qui ressemblera suffisamment aux dieux pour faire le travail comme eux, mais qui ne ressemblera pas suffisamment pour revendiquer d'être traité comme les dieux. Alors pour ça, il propose, n'est-ce pas, de le faire en argile, ce qui était la matière plastique la plus commode dans le pays, mais aussi, pas seulement pour ça, mais aussi parce que dans ce pays, pour dire mourir, on disait retourner à son argile. Et en effet, les squelettes tombent en poussière, retombent à la terre un petit peu. Le fait d'être en argile les empêchera les hommes de revendiquer l'égalité et les lieux, de refaire une autre grève, comme avaient fait les petits dieux. Et d'autre part, comme il faut qu'il soit suffisamment... Enfin, l'argile, c'est une matière morte. Il faut animer cette argile, et animer d'une façon suffisamment riche, intelligente, pour que ceux qui seront faits à l'argile puissent travailler aussi bien, ou presque, n'est-ce pas, que les dieux eux-mêmes, que les dieux n'y perdent pas, si vous voulez. Alors, il propose donc de prendre de l'argile, de l'humecter pour la pétrir avec le sang d'un dieu de second rang, qu'on tuera pour ça, c'est nécessaire, et d'en faire ce qui sera l'homme. Alors, les dieux sont enthousiasmés, se récrient, c'est passé très bien, et comme ces gens-là, les Mésopotamiens étaient des gens très, pas seulement industrieux, mais déjà presque industriels, ils savaient qu'avant de lancer dans le commerce un objet, il fallait en faire le prototype, l'essayer. Alors on fait d'abord un prototype de l'homme. Et quand ce prototype est soumis à l'Assemblée des dieux, ils voient qu'il fonctionne bien, que c'est exactement ce qu'ils veulent, ils applaudissent tous et on passe à la réalisation en série, si on peut dire. On va lancer les hommes sur le plan, en quelque sorte, industriel, par 7 couples, qui seront les parents de tous les autres. Et ces couples seront obtenus parce que on prend 14 matrices, probablement des déesses de second rang, dans lesquelles, d'une façon que nous ne comprenons pas, peut-être eux-mêmes ne comprenaient pas bien, en tout cas les cassures nous empêchent de voir clairement comment, on dépose l'argile humectée du sang d'un dieu, et au bout du temps normal de la gestation, 7 donnent des hommes et 7 des femmes, les premiers couples, et l'homme est créé. Voilà comment le texte donc explique la naissance de l'homme. Mais vous voyez en gros comment l'homme qui n'existait pas existe, et comment l'homme existe parce que les dieux ont besoin de lui. Et ils ont besoin de lui parce que l'homme va être le fournisseur des dieux. C'est lui qui va travailler, tout son travail sera dirigé vers la préparation et la fourniture de tout ce dont les dieux ont besoin pour mener une vie agréable. C'est tous les dieux qui vont être les gouvernants maintenant, ils ne vont plus avoir à travailler. Alors tout ce dont ils ont besoin pour mener une vie un peu béate, tranquille, sans souci, sera fait par les hommes. Ils sont créés pour ça. Voilà. Alors donc, première chose, ils se font de nouveaux outils, puisque les dieux avaient brûlé leurs outils. Ils confectionnèrent de nouvelles pioches et houes, puis édifièrent de grandes digues d'irrigation pour subvenir à la faim des hommes et surtout à la chair des dieux. Alors, sur quoi le texte continue, n'est-ce pas ? 1200 ans ne s'étaient pas écoulés que le territoire se trouvait élargi et la population multipliée. Autrement dit, les premiers hommes étaient censés mener une vie très 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 longue. Nous avons des textes qui parlent de rois qui auraient vécu, c'est des blagues naturellement, qui auraient vécu 64 800 ans. C'est un peu beaucoup naturellement. Alors les premiers hommes vivaient beaucoup, donc ils ont une vie très longue. D'autre part, ils ont la génération facile, rien ne s'oppose parce qu'ils fassent des enfants tant qu'ils peuvent naturellement. Alors la foule des hommes croît, si bien que ça fait un potin infernal. Autrement dit, le dieu Enlil ne peut pas dormir. Il n'est pas content parce qu'il devient insomniaque. Alors, comme il n'est pas très malin, autre preuve qu'il n'est pas très malin, il décide de les décimer. Ce qui n'est pas très malin parce que les moyens qu'il emploie peuvent très bien ne pas être arrêtés. Alors, le moyen qu'il emploie d'abord, c'est de leur envoyer la maladie, qui les décimera, qui... Seulement la maladie peut guérir, enfin, elle peut ne pas aller jusqu'au bout, c'est donc dangereux son projet. Mais enfin, les hommes sont livrés à la maladie et ne savent pas trop comment faire pour s'en tirer, mais le dieu qui les a créés, le dieu Ea, pas le malin, il leur apprend ce qu'on appellera plus tard l'exorcisme, des prières et des rites propres à s'opposer à tel ou tel mal. Alors, en même temps, remarquez bien que en même temps que cette histoire se déroule, l'auteur explique indirectement comment les hommes ont appris d'abord à souffrir de la maladie et deuxièmement de s'en débarrasser par des moyens religieux naturellement. Alors ils se débarrassent de leur maladie, si bien qu'ils recommencent et que le bruit continue, le vacarme de plus en plus fort et Henley de plus en plus insomniaque, irrité et de plus en plus décidé à décimer tous ces gens-là qui font du bruit, etc. Alors cette fois-ci, il leur envoie la sécheresse. Dans un pays comme ça, c'est important, c'est un pays sec. La sécheresse, si le fleuve n'a plus d'eau, si les canaux sont vides, s'il n'y a plus les pluies hivernales qui font la crue, etc., il y a la famine. Il renvoie la sécheresse et la famine. Mais au bout de quelques temps, grâce au même remède que leur a appris le dieu Ea, ils s'en débarrassent. L'inconvénient subsiste et augmente, tumulte, vacarme, insomnie, etc. Alors cette fois-ci, Enlil, qui encore une fois n'est pas très malin, pas la peine de vous le dire, ça sort du texte, hein, il décide de les anéantir tous. Il les fait détruire, sans se dire que les dieux ont retombé dans la famine, etc. Mais comme il n'est pas très malin, mais il a fini par comprendre que le fait que les deux fléaux qu'il avait envoyés d'abord ont été comme ça surmontés, doit provenir de quelqu'un qui a renseigné les hommes qui sont protégés. Alors il interdit à tous les dieux de parler de ce projet, de parler aux hommes de ce projet, de façon qu'il n'y ait plus de survivants. Il va loin, naturellement. Alors, dans le pays, il va y avoir des pluies torrentielles qui vont faire monter considérablement le niveau du fleuve, la crue, et qui vont noyer tout le monde. Et Enlil sera content, il pourra dormir. Tu vois. À ce moment-là, le dieu Ea veut absolument éviter cette catastrophe. C'est stupide, il se rend compte, mais il n'a pas le pouvoir. Il est très haut placé, mais il n'a pas le pouvoir. Alors, il faut agir par ruse. Alors, il veut parler à son ami, à lui, qui s'appelle Super Sage, c'est le roi du pays. Mais il ne lui parle pas directement. Il parle à la paroi de roseau de la maison derrière laquelle se trouve assis Super Sage. Comme ça, il n'a pas manqué à son serment. Et en plus, il lui fait voir un songe, ce qui n'est pas parlé. Il ruse, il jésuitise un petit peu là-dedans. Et alors, de toute façon, par ce moyen indirect, mais qui lui permettra de sauver la situation, il renseigne le super sage, le roi du pays, donc son ami, et il lui dit de se bâtir ce que la Bible appelle une arche, mais que les textes babyloniens appellent un bateau insubmersible, en emmenant avec lui des couples de tous les spécimens d'êtres vivants, de manière à pouvoir reprendre après la population de la Terre, aussi bien animaux que hommes. Alors donc, il y a le récit du déluge, et tous les hommes sont détruits, tous les hommes disparaissent, excepté le bateau qui flotte toujours, naturellement. Le récit du déluge n'est pas complet, il y a des cassures là-dedans. On nous montre quand même les dieux épouvantés, d'abord par ce massacre horrible, mourant de soif et de faim parce que les hommes n'étant pas là, ils sont morts, tu ne peux plus les nourrir. La déesse qui avait modelé la première, l'argile pétrie qui a donné les hommes, elle est désolée, elle dit « jamais j'aurais cru un truc pareil, moi qui suis leur mère à tous, ne pas les voir disparaître comme ça ». Enfin, on nous décrit donc tout le malheur qu'implique le déluge, mais le récit n'est pas complet. Il y a des cassures, si vous voulez. À la fin, le déluge s'arrête, nous n'avons pas le morceau, mais enfin, on le voit arrêter. Le déluge s'arrête et le premier soin qu'a le super sage en quittant le bateau, c'est d'offrir un repas aux dieux, dans lesquels on avait drôlement besoin, et qui se jettent dessus, qui le dévorent tous. Quand ils ont dévoré, ça doit être aussi une preuve de la sottise un peu de Enlil, il ne s'est pas préoccupé au début de savoir que ses ordres avaient été contrevenus, mais il a mangé d'abord. Alors après ça, il s'aperçoit que ce repas vient de quelque part, et que donc on a contrarié ses desseins. Alors il prend une grande colère, il y a une dispute entre les dieux. Une dispute entre les dieux où le Ea lui reproche d'avoir fait ce massacre épouvantable. Il y a encore des cassures là-dedans, mais on comprend, si vous voulez, que Ea veut porter remède au trop grand nombre des hommes. Alors, premièrement, il réduit la longueur de la vie humaine au taux normal, c'est-à-dire une centaine d'années. Deuxièmement, il introduit dans les femmes un certain nombre qui sont stériles. Donc ce sera toujours ça de gagner, elles ne feront pas d'enfants. D'autres ne les feront pas pour des raisons non pas physiques, mais pour des raisons religieuses. Nous savons qu'il existait dans ce pays des prêtresses à qui la maternité était interdite. Alors c'est là qu'elles ont été fondées, d'après le mythe naturellement. Ce qui diminuera aussi le nombre des enfants. Alors finalement, ça y est, si vous voulez, les choses en sont venues à la fin du déluge dans l'état où elles sont depuis. C'est ça un mythe. C'est raconte ce qui se passe avant, de manière qu'on aboutisse à la situation normale, connue, n'est-ce pas? Et là, la situation rêvée, c'est celle des hommes depuis, qui vivent au maximum 100 ans, et dont les femmes ne peuvent pas toutes avoir des enfants, etc., etc.